Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Frédéric Régent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Bernard, je vous laisse comme à l'accoutumée présenter notre invité.
Frédéric Régent est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est membre de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine et de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Entre 2016 et 2019, il a présidé le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Parmi ses nombreuses publications, je signale à nos auditeurs « La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions », 1620-1848, sorti aux éditions Grasset et actuellement disponible en poche. Et puis notre mission d'aujourd'hui est consacrée au livre que notre invité a publié en 2019 aux éditions Talendier, Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848.
Merci Bernard. Alors Frédéric Régent, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps dans quel cadre vous avez rédigé ce livre ?
Alors, ce livre a été rédigé dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches, qui est le diplôme après la thèse qui permet de pouvoir candidater à des postes de professeur d'université. Ce livre est la suite de 24 années de recherche sur l'histoire de l'esclavage. J'avais commencé par une thèse qui portait sur la population de couleur, donc les esclaves, les libres de couleur et les citoyens de couleur pendant la Révolution française. Et en faisant toutes ces recherches pendant ces longues années, j'ai accumulé beaucoup de documentation sur les maîtres, parce que lorsque l'on étudie les esclaves, on les étudie souvent à partir de documents qui ont été faits par ou pour les maîtres, je pense notamment aux actes notariés, et il me semblait que ce groupe, qui est assez peu étudié dans l'historiographie, dans les livres d'histoire, méritait mon attention pour inverser un peu ma perspective d'étude. Après avoir étudié les dominés, j'étudiais les dominants.
Justement, Frédéric Régent, dans l'introduction de votre ouvrage, vous écrivez, je cite, « Les maîtres constituent largement un impensé de l'histoire des sociétés coloniales ». Que voulez-vous dire ?
Eh bien, si on regarde la bibliographie, tous les ouvrages parus sur l'histoire de l'esclavage, on a beaucoup, beaucoup de travaux sur les esclaves et très peu sur les maîtres. Alors c'est une particularité parce que souvent on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, par les dominants. Et là, la particularité de l'histoire de l'esclavage, c'est exactement l'inverse. Il y a plus d'ouvrages, de livres sur les esclaves que sur les maîtres. Alors généralement sur les maîtres, le type d'ouvrage que l'on peut avoir sont plutôt des histoires de plantation ou des histoires de familles de maîtres. Et il manquait dans l'historiographie une histoire qui se veut globale, une synthèse sur ce groupe particulier qui est celui de propriétaires d'esclaves.
Le livre porte sur une période de 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Vous avez en particulier suivi 8 générations de maîtres en Guadeloupe. Pouvez-vous nous présenter quelques profils, Frédéric Régent ?
Alors les profils de maîtres sont les suivants. Il y a des petits nobles ou bourgeois assez aisés qui arrivent dans la colonie, reçoivent des concessions, ont des moyens financiers pour avoir de la main-d'œuvre, soit des engagés européens, soit des esclaves, d'ailleurs bien souvent les deux, et mettre en place une plantation, d'abord du tabac entre les années 1635 et le milieu des années 1650, puis du sucre. Donc des gens qui arrivent avec un certain capital qui s'installent. Les terres qu'ils reçoivent, ils les reçoivent gratuitement elles sont concédées en échange de leur mise en valeur dans des délais assez rapides de 2 ou 3 années. Donc ça, c'est un premier profil. Bien entendu, ces personnes ensuite vont transmettre leurs biens à leurs descendants. Deuxième profil, ce sont des engagés, ce sont donc ces serviteurs européens qui s'engagent à servir pendant 3 ans un maître, et au bout de ces 3 ans, ils sont libérés de leur contrat de servitude et peuvent là aussi obtenir des concessions de terre, et là aussi en s'enrichissant un petit peu pour quelques-uns d'entre eux, devenir eux-mêmes soit maîtres de serviteurs, soit propriétaires d'esclaves, et aussi les deux en même temps. Donc ça, c'est un deuxième profil de maître. Le troisième profil de maître, ce sont des gens qui au départ sont des esclaves, qui sont affranchis et puis qui deviennent propriétaires d'esclaves. Quatrième profil de maître, que je n'étudie pas précisément dans l'ouvrage sous forme de 8 générations, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, ce sont les religieux. Voilà, les religieux, en principe, n'ont pas d'enfants légitimes et ne transmettent pas leurs biens. Donc les religieux, les missionnaires, dominicains, jésuites, qui obtiennent des concessions de terre, qui vont les faire mettre en valeur également par des engagés européens et des esclaves, et qui sont aussi des maîtres.
Donc il existe une grande diversité de maîtres et une grande diversité d'habitations aussi. Vous avez parlé du café, du sucre, du tabac. Et donc certains ont un grand nombre d'esclaves et d'autres très peu. Alors comment fonctionnait cette économie coloniale en Guadeloupe sur les 2 siècles que vous avez pu étudier à travers cette diversité de maîtres ?
Oui, il y a une très grande diversité des maîtres. Entre celui qui possède ce que l'on appelle à l'époque une manufacture à sucre, qui possède plus d'une centaine d'esclaves, qui bien souvent est juste là pour contrôler le fonctionnement de sa plantation, qui a environ 10 de domestiques à son service, avec le petit propriétaire qui produit des vivres ou qui produit du café, mais qu'il n'est pas capable de torréfier lui-même, qu'il vend à quelqu'un qui bonifie son café et qui possède un esclave et qui souvent travaille aux côtés de cet esclave. Vous voyez, il y a une très grande diversité.
Ces petits propriétaires qu'on connaît moins, on a souvent l'image d'Épinal de ces grands propriétaires, notamment de sucreries.
Tout à fait. Et voilà, donc il y a quand même une grande diversité dans ces propriétaires, mais le point commun, c'est qu'ils possèdent des esclaves. Alors comment fonctionne cette société ? Cette société fonctionne en fonction des cultures qui sont pratiquées. Donc le sucre, c'est vraiment le domaine des grands propriétaires. Alors on peut trouver des petits propriétaires qui vont planter de la canne à sucre et qui vont ensuite livrer cette canne à sucre à des grands propriétaires qui vont la transformer en sucre. Ensuite, deuxième grande production qui intervient à partir des années 1720-1730, c'est le café. Le café qui vient d'Asie, qui n'est pas une plante autochtone aux Antilles. Et le café va permettre la mise en valeur de terrains en pente sur lesquels la canne à sucre est difficilement exploitable. Et le café va vraiment développer dans le milieu du XVIIIe siècle l'économie, parce qu'il nécessite aussi de la main-d'œuvre, et c'est également un produit à forte valeur ajoutée.
Là encore, avec des différences de plantation, j'imagine, sur le café, des petites, des grandes.
Oui, mais les grandes plantations de café sont toujours plus petites que les toutes petites sucreries.
D'accord.
Donc le café, et puis après, bon, un peu plus anecdotique, alors pour la Guadeloupe, le coton. Bon, il y en a un peu, mais c'est pas... Enfin, il y en a. Hein. Et puis, un peu de cacao, mais que l'on trouve plus en Martinique. Et aussi ceux qui produisent des vivres, donc qui produisent du manioc, des ignames, pour la consommation notamment de tous ces esclaves qui sont surtout attachés à la culture de la canne à sucre, plus qu'à la culture de vivres.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre d'esclaves qu'il y avait sur l'île ? Alors, en 2 siècles, évidemment, ça a beaucoup évolué, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on puisse se situer ?
Oui, alors, pour se situer, le nombre d'esclaves est estimé à environ 3000 dans la fin des années 1650, début des années 1660. Et il atteint 90 000 en 1790. Et en 1835, il atteint presque 100 000. Alors après, ces chiffres, Ce qui est important, c'est de voir aussi leur proportion dans la population. Dans les années 1650, ils forment 20-25% de la population. Et puis, au moment où ils sont le plus nombreux, entre 85 et 90% de la population.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Frédéric Régent et nous abordons aujourd'hui les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves.
Frédéric Régent, vous consacrez un chapitre un peu plus long que les autres aux maîtres en révolution. La révolution constitue une période charnière dans l'histoire des colonies en général et en Guadeloupe en particulier. En quoi ?
Alors, c'est une période charnière du fait que l'esclavage est aboli, et donc ça a des conséquences pour leur maître. C'est une période de rupture aussi, car la plupart, en gros presque les 4/5 des propriétaires de manufactures à sucre vont émigrer. Donc la majeure partie des esclaves se retrouvent sans leur ancien propriétaire. Donc ça, ça constitue un moment particulier. Alors, je me suis intéressé à ces familles de maîtres et alors il y a un mythe qui indiquait que tous les maîtres de la Guadeloupe auraient été tués pendant cette période de la première abolition. En réalité, on peut estimer le nombre de morts à 500, peut-être un peu plus, mais ce ne sont pas les familles entières qui sont tuées. C'est souvent un des fils qui combat aux côtés des troupes anglaises. Lorsque les troupes révolutionnaires dirigées par Victor Hugues viennent abolir l'esclavage, et sinon le reste de la famille part en exil. Et lorsqu'en 1802 l'esclavage va être établi, qu'il y a une volonté de retour à l'ordre ancien, les anciens maîtres vont revenir et récupérer leurs propriétés. Mais ce que l'on constate, c'est du fait qu'ils sont restés 8 années en exil. Pendant ces 8 années, ils ont emprunté. Pendant ces 8 années, leurs terres n'ont pas été mises en valeur en raison de la guerre. La production de sucre s'est effondrée. Ils se retrouvent extrêmement endettés et ils vont cumuler cet endettement jusqu'à l'abolition de l'esclavage et même au-delà.
Mais comment
la deuxième abolition, en 1848, oui.
Comment se passe ce retour ? Vous dites que les maîtres sont partis en exil, ils leur reviennent. J'imagine que c'est quand même dans un contexte extrêmement compliqué.
Oui, alors, ce qui se produit, c'est que en mai 1802, une expédition qui est dirigée par le général Richepanse vient mater une rébellion de soldats de couleur avec une très grande férocité. Et le pouvoir consulaire de Napoléon Bonaparte est remis en place et les émigrés reviennent suite à une répression terrible. Et y a une très grande peur des cultivateurs qui finalement acceptent le retour, enfin acceptent... qui ne se révoltent pas contre le retour de leur maître. D'autant qu'il faut ajouter une chose, c'est que pendant cette période de la première abolition, les esclaves ont été assignés sur la plantation de leur ancien maître. Ils étaient soumis à une forme de travail forcé, donc il ne faut pas imaginer la première abolition de l'esclavage comme une période de très grande liberté pour les esclaves. Et d'ailleurs, ce que j'avais analysé dans ma thèse, c'est qu'il y avait une division entre les esclaves qui étaient devenus soldats sous la Révolution, pendant l'abolition, et ceux qui étaient restés cultivateurs. Et d'ailleurs, pendant cette période-là, les cultivateurs s'étaient révoltés pour demander leurs droits. Ils avaient été réprimés par cette armée de couleur. Et lorsque, en 1802, le général Richepanse est venu pour mater la rébellion de cette armée de couleur, les cultivateurs ont été assez circonspects par rapport à ces soldats avec lesquels dont ils étaient un peu méfiants, qui les avaient réprimés quelques années auparavant. Et également, autant on peut concevoir un combat pour la liberté, mais se battre alors qu'on est dans une situation de travail forcé, c'est pas, et surtout face à des forces du général Richepense qui étaient considérables.
Est-ce que vous pouvez revenir juste sur cette assignation par rapport aux anciens esclaves sur les terres ? C'est quelque chose qu'on connaît très peu suite à la première abolition. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ces anciens esclaves ?
Ces anciens esclaves sont obligés de rester sur la plantation de leur ancien maître. Leur ancien maître est remplacé par un séquestre, puis ensuite par un locataire, à l'époque on dit un fermier, et s'ils quittent la plantation, eh bien ils peuvent être emprisonnés, enchaînés, avoir des condamnations de prison.
Donc très peu de différence avec l'esclavage.
Alors la différence, c'est que le fouet est censé avoir été aboli, mais vous savez très bien qu'entre ce qui est dans la loi et les pratiques, il y a une différence, d'autant que celui qui tenait le fouet, c'était le commandeur, un esclave lui-même, et en gros, c'est encore lui qui est chef des cultivateurs. Voilà, on le voit dans les sources, il y a vraiment une volonté de réprimer ces cultivateurs. Alors certains s'enfuient et deviennent ce que l'on appelle vagabonds. Il y a des expéditions pour tenter de les ramener sur les plantations. Donc c'est pas une période de liberté du travail.
Oui, tout à fait, qu'on connaît très peu. Et pour parler maintenant de la seconde abolition de l'esclavage de 1848, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe pour ces anciens esclaves ?
Alors l'abolition de 1848, donc qui est la deuxième, après celle de 1794 et du rétablissement de 1802, elle est déjà, faut le préciser, déclenchée à la suite de la révolution parisienne de février 1848. Le gouvernement provisoire décrète donc l'abolition de l'esclavage et elle va s'appliquer en Guadeloupe le 27 mai 1848. D'ailleurs un peu de manière anticipée parce qu'il y a eu une révolte en Martinique et pour le 22 mai 1848 et pour éviter que les esclaves se révoltent aussi en Guadeloupe, le gouverneur décide d'abolir l'esclavage le 27 mai 1848. Alors la particularité de cette abolition, c'est qu'elle transforme les esclaves en citoyens. Et ces esclaves, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est en août 1848, c'est voter. Ils vont voter pour élire les députés à l'Assemblée, qui siègent à Paris. Et un autre élément, c'est qu'un état civil va leur être donné. Et les officiers d'état civil vont aller de plantation en plantation, voir le propriétaire, voir l'ancien propriétaire de ces nouveaux libres et leur donner des patronymes, des noms de famille. Parce que les esclaves n'avaient que des prénoms. Alors la construction de ces patronymes va se faire selon des logiques très différentes selon les officiers d'état civil, mais il y a quand même des points communs. Utiliser le prénom de l'esclave pour en faire un nom de famille, en l'aménagement. Je peux citer un exemple. J'ai une de mes ancêtres qui s'appelait Césarine. On va lui donner comme nom de famille Césaron. On trouve aussi un peu l'imagination des officiers d'état civil. Un esclave qui s'appelle Hector, on va l'appeler Troyen. Autre exemple, utiliser des anagrammes du prénom. Augustin devient Nistugo. Édouard devient Douared, l'utilisation de la carte de France, l'utilisation de sa propre culture. Un état civil qui aime bien l'antiquité grecque va donner des noms de famille comme Cincinnatus, Spartacus, romaine et grecque, Spartacus, Échille, un peu les logiques de donation des patronymes qui sont les noms aujourd'hui portés par les descendants des esclaves.
Et les esclaves, une fois libres, une fois citoyens, comment la société se réaménage-t-elle, si j'ose dire, pour pouvoir continuer de fonctionner ?
Alors, les anciens propriétaires restent les propriétaires des terres. Ils vont recevoir une indemnité qui est environ, alors ça dépend des colonies, mais enfin pour la Guadeloupe, environ 400 francs par esclave, ce qui ne correspond pas à la valeur du prix de l'esclave juste avant l'abolition, mais enfin qui est une somme assez significative. Et les anciens esclaves vont plutôt rester sur la plantation de leur ancien maître. C'est une minorité qui va partir, parce que partir pour où ? En ville, il n'y a pas tellement d'emplois. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est à un moment où il y a une évolution dans la production du sucre, où on passe à la mise en place d'usines centrales. Donc, des usines vont s'installer, et ces usines ont besoin d'ouvriers. Donc, une partie des anciens cultivateurs vont devenir ouvriers. Mais ces anciens esclaves vont rester sous la domination de leur ancien propriétaire.
Oui, bien sûr, on imagine que ce n'est pas en un seul décret que tout change, donc les pratiques continuent de perdurer malgré tout.
Voilà, la pratique de domination coloniale perdure.
Frédéric Réjean, comme je l'ai indiqué en début d'émission, vous avez présidé le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. En novembre 2019, ce comité a cessé d'exister et il a été remplacé par une fondation pour la mémoire de l'esclavage présidée par Jean-Marc Ayrault. Par ailleurs, vous allez intégrer cette nouvelle fondation et notamment son comité scientifique. Et le Premier ministre vous a par ailleurs confié une mission pour ériger un mémorial pour les esclaves. Pouvez-vous nous présenter un peu ce projet ?
Alors la mission, c'est l'expertise scientifique de ce mémorial qui sera installé aux Tuileries. Et ce mémorial a pour but de recenser les noms et prénoms des esclaves, justement ceux qui ont obtenu un patronyme après l'abolition de 1848. Donc il y a tout un travail à faire. À propos des listes, alors il y a des associations mémorielles ou généalogiques ou des chercheurs qui ont déjà bien avancé sur la constitution de ces listes, mais il y a besoin de valider ces listes et puis également de les compléter. Et mon but, ce sera un peu de coordonner tout cela et puis aussi de participer à un comité d'orientation qui va donner des indications aux artistes, parce que ça va être un concours d'artistes et il va y avoir un cahier des charges auquel ils seront soumis, à la fois techniques, parce que au Jardin des Tuileries, il y a un certain nombre de contraintes techniques qui vont s'imposer aux artistes, et puis aussi historiques. Il y aura dans ce mémorial un message historique adressé à ceux qui ensuite le visiteront, et le rôle, enfin voilà, mon rôle, c'est un peu de, avec un comité d'orientation, de rédiger ce cahier des charges.
Ce monument est prévu pour quand ?
Alors son inauguration est prévue pour mai 2021.
Pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Alors pour la commémoration de la journée nationale des victimes de l'esclavage.
Donc le 23 mai.
Voilà.
Merci Frédéric Réjean. Avant de nous quitter, Bernard, pouvez-vous nous rappeler quelques références bibliographiques sur le sujet abordé aujourd'hui ?
Tout à fait. Je voudrais d'abord rappeler l'ouvrage qui a été l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, l'ouvrage de Frédéric Réjean, « Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848 », publié chez Talandier. Deuxième référence, sous la direction de Jean-Pierre Sainton, « Histoire et civilisation de la Caraïbe », publié chez Cartala en 2 tomes. Et enfin, je signale le cahier des Anneaux de la mémoire numéro 18, consacré à la Guadeloupe.
Merci Bernard, merci Frédéric Réjean d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci aux auditeurs qui nous suivent. Le mois prochain, nous recevrons Sandrine Ferré-Rode et nous évoquerons le récit de la vie et des aventures de Henri Bibb, esclave américain, écrit par lui-même. Très belle fin de journée à tous et à toutes. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.